Vous êtes sur Radio Écho des Choucas 103.7.
Jean-Claude Drouot, bonjour, comment allez-vous ?
Bien. Il vaut mieux.
Oui, il vaut mieux, certainement. Oui. Alors, je vous remercie de nous consacrer un peu de temps, d'autant que je me doute que vous soyez très sollicité dans les jours à venir, puisque vous allez passer sur Chauvigny le 12 novembre. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez actuellement en tournée, en tournage plutôt, avec Miu Miu et Patrick Chesnay, si c'est bien ce que...
Oui, c'est un tournage. C'est la grande qualité du scénario, de l'histoire. Pour l'instant, titre peut-être provisoire, mais c'est Submergé. C'est le titre au féminin, Submergé. C'est l'histoire de sur une île qui, disons, on met ça dans un avenir de 30 ans, disons, en 50, 2250. Bon, une île qui finit, comme on nous le promet, d'être complètement submergée. Donc, il y a une petite poignée de vieillards dans mon genre, 85 ans, qui renoncent formellement à se faire masser dans les EHPAD, et qui choisissent de terminer de façon très dans le refus, rebelle, etc., sur une île.
D'accord,
qui prend l'eau.
Submergée, donc, ce qui va très bien avec le réchauffement climatique, je suppose.
Mais c'est pas du tout un film de caractère écologique, mais enfin, c'est ça, un conte. Vous avez eu un conte, une histoire qu'on raconte, c'est un conte. Sous forme de parabole, c'est de fin de vie.
Oui. D'accord, on est encore très loin.
La réalisatrice s'appelle Alante Kataive. Kataive, et elle est vraiment d'une grande finesse, grande subtilité, c'est magnifique. Donc tout le monde répond présent à ce projet, de façon... répond, parce que c'est de beaux moments à construire et à fabriquer, oui.
Très beau rôle aussi à interpréter. Alors, il y a des rôles justement qui collent à la peau. Vous me disiez que vous étiez avec Miu Miu et Patrick Chesnay. Alors, Miu Miu, bien sûr, c'est les valseuses. Patrick Chesnay, promotion canapé. Alors, pour ce qui vous concerne, les générations d'enfants, dont j'étais un peu, j'ose l'avouer, à l'époque.
Chacun, je ne vais pas dire, c'est pas une casserole.
Non, pas du tout. Au contraire. Je me souviens très bien de ça.
C'est assez. Et avec les gamins, donc vous me dites où vous en êtes, les gamins et gamines, c'était il y a 60 ans.
C'est 63. Ça, tout à fait, avec une première diffusion, le 3 novembre 63, vous voyez, on va fêter les 60 ans dans quelques jours. C'est quand même pas pour vous un souci qu'on vous rappelle à chaque interview, vous avez été Thierry Lafronde.
Ah ben non, parce que je dirais que les... Non, pour résumer, c'était le jeune homme que j'étais.
Exactement.
C'est pas du tout un rôle de composition.
Et Thierry Lafronde, donc, c'est comme je disais, c'est une carrière aussi exceptionnelle. C'est pas seulement Thierry Lafronde. Jean-Claude Drouot, vous avez fait énormément de choses. Vous avez dirigé le Centre dramatique national de Reims. Vous avez été responsable du Théâtre national de Belgique, votre pays d'origine.
J'ai repris mon. Oui, moi, c'est la. Je suis ce qu'on appelle un homme de plateau, c'est-à-dire que mon univers, c'est vraiment l'éphémère du théâtre. Quand je dis l'éphémère, c'est un acte d'éphémère. C'est une remise en question au quotidien.
Oui, chaque soir, tout à fait.
Et cette discipline-là, cette exigence-là, elle fait plus que me convenir, je suis présent à moi-même au travers, avant tout, le théâtre, à cause de la remise en question au quotidien, de cet acte de création, d'une sorte de... Oui, c'est une... C'est, moi, ça me... Ça me J'attends ça.
Vous avez fait, oui, vous avez fait plus de 70 pièces de théâtre, de multiples mises en scène.
Je n'ai ouais, pas compté.
Oh, bah, j'ai regardé, oui. Alors, sous réserve que Wikipédia soit tout à fait à jour, mais au moins 70 pièces. Alors, vous avez fait aussi pas mal de mises en scène. Vous avez fait un peu de cinéma en proportion. C'est par choix ou un regret? Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un choix par rapport au théâtre.
Ah ben, pour résumer, je dis Drouot, Jean-Claude, homme de théâtre.
Ouais, le cinéma sans plus.
Mon étoile polaire, c'était Jean Vilar. Hein. Je suis né, c'est mon papa, un de mes papas non biologiques, c'est Jean Vilar. C'était le Théâtre National Populaire. Oui, oui, je suis né ben, de ce que j'ai prouvé en spectateur devant le travail de son équipe. Voilà. Oui. Je parle de ça en 59.
Ouais, profondément de théâtre. Et d'ailleurs, vous serez à Chauvigny le 12 novembre prochain, parmi nous, donc, pour parler de l'art d'être grand-père. Un statut que vous partagez avec l'auteur, hein, l'auteur qui est Victor Hugo. Vous êtes, je crois, même arrière-grand-père. Alors, la dynastie des Drouot, acteurs et comédiens, semble pouvoir se perpétuer.
Ben, aucun n'est vraiment... Ah, sauf ça, une de mes petites filles, oui. qui est pas comédienne vraiment, mais elle travaille sur le... Elle s'exprime plutôt au niveau du théâtre. Par contre, une autre de mes petites filles, Héloïse Péloquet, elle a fait la Fémis et elle vient de faire son premier long métrage avec Cécile de France, c'est Héloïse Péloquet. C'est ma petite fille, qui a fait La Passagère avec Cécile de France, mm-hmm. Et c'est un film qui a été très bien accueilli par la critique et puis bien, bien apprécié par les spectateurs. Alors, voilà. D'accord. Donc, enfin, ils sont pas tombés dans la marmite, hein. Moi-même, c'était pas aucun dans la famille, sauf un de mes oncles qui était peintre, très bon peintre amateur, mais très, très bon peintre, qui était l'artiste de la famille. Sinon, non, c'était les Drouot en Belgique. Je suis belge, hein.
Ben, j'y reviendrai tout à l'heure, d'ailleurs.
Une souche de les Drouot de Belgique, c'est la même souche qui, en fait, à 5 générations, Et Lorraine vient de Nancy.
Voilà, mais puisque vous allez essayer de me voler mes questions avant, je vais d'abord passer à la suivante parce qu'on y reviendra justement par rapport à vos souffles tout à l'heure.
Ah ben, oui, très bien.
Dans l'art d'être grand-père, hein, que vous interprétiez au mois de juillet à Avignon, est considéré comme une forme de testament poétique de l'auteur des Misérables. Qu'est-ce qui vous a amené à mettre en scène dans un premier temps et puis ensuite à interpréter cet aspect de la vie de Victor Hugo plutôt qu'un autre?
C'est la dernière, l'art d'être grand-père. En tout cas, c'est la dernière œuvre que Victor Hugo a fait éditer. Nous sommes en 1877. Il meurt en 85. Hein. Bon, c'est la dernière. Ce sont ses petits-fils, Georges et Jeanne, ses deux fils, les enfants de son fils Charles. C'est un moment de la vie de Hugo où il est en deuil. Mmh. Il est en deuil, profondément en deuil. Il a perdu dans le chagrin. Il a perdu ben, d'abord Léopoldine, ça c'était en 1843, morte noyée quelques semaines, voire mois après son mariage.
Il lui a inspiré donc demain des
etc. C'est bon, un premier deuil. Ensuite, ben, c'est toute la période d'exil, hein, près de 20 ans de Hugo, mm-hmm. D'abord à Jersey, puis à Guernesey, où il a acheté une propriété, une maison, etc. Un exil qui a duré 20 ans, avant le retour au moment de la Commune en 1870, etc. Bon, et il y a eu une déception pour lui, un accueil extraordinaire à son retour d'exil, un accueil extraordinaire, et qui s'est rapidement, il y a une succession de déceptions sur le plan politique, sur le plan et qui fait qu'il y a une envie, un retour à l'exil. Ce sont les deux premiers mots. Les tout deux premiers mots de l'art d'être grand-père, hein, c'est solitude, silence.
D'accord.
Oh, Et ce « ou », oui, « ou », « ou », « ou ». Alors là, ce « ou », c'est vraiment « ou, là, 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 là. Le désert me tente ». Voilà les premiers mots.
Alors, oui. Les critiques ont été dithyrambiques hein, par rapport à votre interprétation et la mise en scène, hein, qualifiée de remarquable. J'aimerais parler au niveau des différents rôles que vous avez pu jouer. Vous avez interprété notamment, on vous a vu dans Mogador, la croisade des enfants aussi, il y a quelques années. Une croisade des enfants, d'ailleurs, que Jacques Higelin avait lui-même repris hein, et chanté quelques années auparavant, en disant « je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands ». Assez grand pour affronter la vie et trop petit pour être malheureux. Et justement, ça m'inspire une question de ce côté-là. Quelle part justement de cette chanson vous conservez? Je pense que vous faites ce métier en vous amusant et ça se sent dans votre voix. Et sans véritablement sérieux, le sérieux de l'interprétation, mais non pas le sérieux en vous prenant trop au sérieux, trop hautain, j'oserais dire même.
Ah oui, voilà, non. Ah non, non, j'aime pas faire état de l'expérience que j'ai acquise. Évidemment que cette expérience, d'ailleurs, les conseils, vous savez, ce sont mes aînés qui, à tel ou tel moment d'un parcours commun avec des aînés, m'ont confié, voilà, leur manière, leur façon de, vous voyez, je suis un autodidacte, hein. J'ai pas fait le conservatoire. Quand j'ai choisi, j'ai dit voilà, c'est ça mon chemin. J'ai quitté en 59 ma Belgique natale pour aller au cours Dulin, le cours Charles Dulin, qui était associé justement au TNP, le Théâtre National Populaire de Jean Villard. Nos professeurs, la plupart d'entre eux étaient des camarades de jeu de Gérard Philippe.
Ah oui, quand même, tout à fait. Ouais.
Voilà, la plupart d'entre eux. Et d'ailleurs, en novembre 59, avec mes camarades, on était quoi, 50, 60, peut-être, jeunes comédiens, comédiennes, élèves, au cours du Lin, eh bien, on a appris, c'était un séisme intérieur, parce que la disparition de Gérard Philippe, en novembre. En novembre 59, ça a été un séisme, à tel point que moi, dont l'emploi est ce qu'on appelle le jeune premier, 2 mois après, Jean-Pierre Darras, qui était un autre professeur, me dit, bon, c'était mon tour d'aller sur le plateau pour présenter une scène que j'avais travaillée. Cette scène, c'était l'Octave des Caprices de Marianne, que jouait Gérard Philippe. Hein, et puis... et qu'est-ce que tu as, l'Octave? Et Darras me dit, non, pardon, mais je ne peux pas. Pardonne-moi, mais je ne peux pas. Il ne pouvait pas, en tant que professeur, indiquer, réagir au travail de l'élève sur un rôle avec lequel il avait partagé la pièce avec Gérard Philippe.
Vous avez eu des bons professeurs, parce que Jean-Pierre Darras, c'est quand même...
Grand professeur, oui, ce sont des pédagogues très actifs, oui, actifs.
On l'oublie souvent.
Pas des théoriciens. Voilà.
On les connaît en tant qu'acteurs, mais c'est vrai qu'on oublie qu'ils ont aussi, ils ont été quelque part des passeurs, en fait, aussi, hein.
Mais oui, mais parce que l'expérience, moi j'ai eu peu de temps et je le regrette et je sens que j'ai une responsabilité personnelle il y a le passage du témoin, quoi. Il faut pas retenir ça pour soi. Il y a une expérience, donc une réflexion par rapport à moi ce qui m'intéresse, c'est essayer de réussir l'incarnation. C'est l'incarnation, pour moi, c'est primordial.
L'incarnation que vous faites bien, d'ailleurs, concernant Victor Hugo. Justement, pour en venir à Victor Hugo, parmi les multiples facettes du personnage, laquelle trouve le plus de résonance en vous? Alors, est-ce le poète amoureux des mots, l'auteur, l'humaniste, le politique et européen convaincu, le républicain endurci qui a choisi l'exil, l'homme écorché vif aussi, après le décès de sa fille Léopoldine ou plus tard de son...
J'ai un peu estompé, je parlais de Léopoldine, mais au moment où il écrit L'art d'être grand-père, eh bien c'est parce qu'il est dans cette période complètement accablé, complètement meurtri. Il a perdu. Sa femme est morte, Adèle. Sa femme est morte. Ses deux fils sont décédés. Charles, le père des deux petits, et François Victor, celui qui a traduit tout Shakespeare. Oui, il est en deuil. Il le dit, voilà. Et il dit lui-même, maintenant que je suis vieux, il le dit dans les premiers vers. Maintenant, voilà, faible et vaincu. Vous voyez, que Hugo dit, voilà, je suis vaincu, je suis à terre. Hein. Ce sont les premiers mots. Les premiers textes de l'art d'être grand-père, il veut rêver, comme il dit, je veux rêver immobile en quelque sombre lieu. Là, saignant, je suis en train de saigner, je médite. Et donc, en méditant, je continue à essayer d'être présent au monde. C'est un phénomène extraordinaire, Hugo. Ah,
tout à fait, oui.
On m'a annoncé hier qu'il y a une représentation cette semaine, samedi, à Bagnols-sur-Cèze, de l'art d'être grand-père, que je n'ai pas joué depuis juillet en Avignon, je n'ai pas encore joué, et vont venir, la troisième génération des Hugo.
Ah, formidable.
L'une d'elles s'appelle Hugo. Ils m'ont dit, je dis, mais c'est formidable, j'ai fait en sorte de pouvoir les accueillir, les inviter, tout ça. Ils sont six ou sept, trois Hugo, porteurs du nom, des arrière-arrière-petits-filles.
Oui. Je vais vous avouer une chose, moi j'ai choisi le prénom de mon fils par rapport à l'auteur en fait, par rapport à Victor Hugo, j'aurais pu l'appeler Victor, vous allez me dire, mais j'ai choisi Hugo justement par rapport à cela. Voilà.
Alors,
C'est pour ça en souvenir, je me suis dit, c'était vraiment un magnifique prénom et surtout magnifique auteur. Alors, acteur, metteur en scène.
Et vous voyez, pour pas que j'oublie, pardon, je vous interromps, on peut parler de l'humour, une forme d'humour très singulier de Hugo. Une manière de considérer la situation et en travaillant beaucoup ces textes, ce sont les textes qui s'emparent de moi.
Et qui
se révèlent comme ça. Vous voyez, c'est le fait de le savoir, ça date d'hier, la présence samedi de ses arrières petits-enfants, sa famille, là, ils viennent. Bon. Eh bien, je dis, pourvu qu'ils reconnaissent leur arrière-arrière-arrière-grand-père, comme ça. Ça l'idée qu'ils en ont, et puis moi, ma manière de... j'aime pas la tricherie, de façon absolue. Donc, ce que j'ai découvert dans... Je disais, Hugo est dans cette période, il est en deuil. Et les deux, la bouée de sauvetage pour lui, ce sont ses deux petits.
C'est ça, il a un pied à terre à ce moment-là.
Voilà. Et la circonstance, c'est que... Oui, ça a répondu... Chez moi, mais je n'ai pas envie de commenter ça. Une période d'absence et de deuil.
Alors justement, pour passer à un autre sujet, puisque par rapport à cela, le fait d'avoir pied à terre, vous êtes encore loin de l'avoir. Vous êtes acteur, vous êtes metteur en scène, comédien, j'en passe, c'est les meilleurs, on ne compte plus le nombre de cordes à votre arc. Je suppose que vous avez énormément de projets là actuellement. Le prochain, c'est... Le prochain projet actuellement, c'est en préparation.
En préparation, pas encore tout à fait. Il y a un projet de tournage avec, tenez-vous bien, Merlin. Merlin, l'enchanteur.
Oui, tout à fait, oui. D'accord.
Oui, le fameux Merlin.
Voilà.
Avec... est-ce que je suis crédible, j'en sais rien, mais quand j'étais quand j'étais encore durant mes humanités au collège, eh bien, il y a eu une mise en scène des Chevaliers de la Table Ronde de Cocteau, la pièce de Cocteau. Eh bien, quel est le personnage qu'on m'a confié ? C'était Merlin.
Ah, bah dites-moi.
C'était Merlin déjà.
Un retour aux sources.
Alors, non, le projet oui, est en train de se construire. Prochain projet, j'ai envie de remercier toute une galerie, tous ces rôles qui m'ont, qui gardent une présence très. En ce moment, je suis avec, comme je l'étais en Avignon, en alternance pratiquement avec Jaurès et Victor Hugo. Hein.
Oui, tout à fait. Oui.
Bon, et d'ailleurs Jaurès, qui est promis aussi, là ce sont des rendez-vous très de nature différente, hein, mais qui sont accueillis de façon assez très formidable. Quoi. En février, je vais aller une semaine en Martinique avec Jaurès. Avec Jaurès, oui. Des projets, oui, mais enfin, pour l'instant, ça va, je m'occupe de ce...
Oui, déjà pas mal, c'est déjà pas mal de choses, tout à fait.
Non, vous savez, là maintenant, je dis, déjà que l'an dernier, j'attends mon prochain anniversaire avec, l'an dernier... J'ai 84 ans et Hugo est parti en 85 à 83 ans. D'accord. Et là, quand j'ai franchi la barre des 84 et des 4 l'an dernier, je dis la l'air.
Oh, vous êtes encore bien loin du départ. Hein. Je m'inquiète pas
oui,
pour ça.
Ça
malheureusement. Alors comme je disais, par contre, vous serez à Chauvigny, hein, salle Charles Trenet, le 12 novembre prochain à 15h30 pour l'art d'être grand-père. Alors je voudrais remercier quelqu'un que vous connaissez bien, je crois, c'est Cathy Depineau, qui fait ici à Chauvigny un travail remarquable autour de la saison culturelle. Vous avez énormément voyagé en France, vous qui avez énormément voyagé en France ou à l'étranger, en dehors des grands festivals, que pensez-vous de la place faite à la culture dans votre pays ? Vaste sujet, vous allez me dire, mais...
Vous savez, il y a eu le nom même, l'espoir de voir, pas naître, il existait, je veux dire, l'idée d'un grand théâtre populaire, hein, elle n'est pas née aujourd'hui, hein, au siècle, au 19e. Au 19e, il y a des gens très motivés, Firmin Gémier, Potcher, c'est dans les Vosges, Bussan, enfin, c'est une grande idée de mettre, et Jean Villard, lui, il a contribué de façon importante à choisir dans le grand patrimoine les œuvres qui permettaient ce rendez-vous sensible, intelligent, généreux avec les œuvres du patrimoine et français et étranger. Ça a été le choix de Jean Villard. Hein. Il n'était pas le seul, évidemment, à avoir cette... Moi, je suis né dans cette perspective-là, enfin, dans ce choix-là. C'est-à-dire que mettre les œuvres, disons, les plus subtiles, exigeantes, ardues, peut-être, eh bien, de leur faire passer, dans la manière de les présenter, de les incarner, le cap de l'hermétisme ou de la difficulté pour un public large. Voilà. Et moi, j'ai cette... Thierry Lafronde contribue depuis le début. Me donne Thierry, l'amitié liée à Thierry, assez large comme ça. Bon, je sens combien il y a une forme de confiance, et je ne dis pas d'adhésion, mais de confiance dans ma manière de gérer mes choix, de faire tel et tel rendez-vous. Ben, il y a pour beaucoup de spectateurs, probablement, on dit, tiens, il faut qu'on aille voir au moins une fois, un jour, notre Thierry.
Tout à bon, fait.
Oui, c'est un... J'ai un statut, depuis le début, d'acteur populaire, au travers ce rôle-là, comme ça.
Et très abordable, populaire et abordable, on peut le dire, d'ailleurs.
Oui, ben justement, alors... j'ai pas envie que ce soit une sévérité et que mes choix, qui ne sont pas de profiter de cette, mais au contraire, je me sens une vraie profonde depuis toujours responsabilité vis-à-vis de cette amitié qui est accordée à ce personnage-là et qui me permet de présenter des œuvres peut-être plus difficiles d'accès, etc., à un public qui répond. Il est là.
Alors Jean-Claude Drouot, vous le disiez tout à l'heure, vous étiez en Avignon en juillet dernier, et sûrement y serez-vous encore l'année prochaine pour un autre projet. Alors je vous rappelle que vous étiez dans la partie off du festival, il y a deux parties, le off et le in. Quelle est la différence entre les deux, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'accueil du public peut-être ?
Non, pas du tout. Il y a, étonnant... Cette semaine, tout à l'heure, je vais travailler sur un texte que je ne connaissais pas, de André Benedetto, qui a été celui qui a, en 68, la création du off, ce qu'on appelait le théâtre off. Le in étant, depuis le premier festival d'Avignon, c'était en 1947, que Villard c'est lui qui a commencé.
Tout à fait, voilà, oui.
Et puis il y a eu 68, etc. Et le besoin d'affirmer une programmation qui soit pas la programmation officielle du festival, etc.
C'est ça, une autre. Il y a une partie institutionnelle véritablement, et une partie
et
plus.
Voilà. Et ça, c'est le Théâtre des Carmes, André Benedetto. Eh bien, ici, ce vendredi, cette semaine, tout à l'heure, je vais trouver sur le texte. André Benedetto a écrit un texte assez formidable qui s'appelle Jaurès, la voix. Ce ne sont pas des paroles de Jaurès, c'est un regard de Benedetto sur Jaurès, sur la voix, sur ce qu'il exprime, etc. Et je vais, puisqu'il y a un hommage justement vendredi et samedi au Théâtre des Carmes en Avignon, on a souhaité, parce que j'ai joué de Benedetto deux pièces, Lire et s'en fout et Fin de journée, quelqu'un que j'avais rencontré dans ces années-là. Et je vais lire une partie de ce texte-là. Voilà. Alors, la différence, c'est qu'il y a une liberté, mais phénoménale. Je ne sais plus, je n'ai pas compté cette année, ces 1800, je ne sais pas, spectacles différents. C'est-à-dire que chacun veut monter sur la table et montrer son truc, comme ça.
Oui, c'est un magnifique festival avec plusieurs centaines de milliers.
Faire exister cette envie, c'est tout à fait. C'est la Mecque du théâtre.
C'est ça, tout à fait. Le plus grand festival mondial, je crois, d'ailleurs.
Au niveau mondial. Ah oui. Ah, c'est incroyable.
Ah, oui,
c'est petit à petit élargi, mais d'année en année, c'est incroyable. Alors, quel est l'avenir de tout ce qui est présenté? C'est évidemment fragile, précaire, mais ce qui est important, c'est de dire, j'y vais, j'y suis, et je fais exister ce frémissement de moi, comme ça, je le fais exister en Avignon, en vrai, oui. C'est important quand on... L'an prochain, on me dit, non, je suis pas sûr, j'ai le sentiment d'avoir fait, pour ce qui me concerne, complètement... d'avoir clos le grand cercle qui me liait depuis le début à Jean Villard. C'est pas sûr du tout que je souhaite Non, j'ai pas de projet.
On l'espère en tout cas, oui. C'est vrai que vous avez d'autres projets, mais on l'espère en tout cas, parce que vous êtes l'un des piliers, on peut dire pratiquement quand même. Hein,
Jusqu'à je n'ai pas décidé un retrait, hein, c'est l'énergie. L'énergie, c'est-à-dire la passion, il faut avoir l'énergie pour conduire. Pour conduire tel ou tel projet. Hein. Je souhaiterais, je n'y ai pas encore vraiment travaillé, remercier tous les rôles, certains des rôles, comme ça, une galerie de rôles, et permettre une sorte de florilège, comme ça, de plusieurs moments de ces rôles. Je pense à Keane, je pense à Alceste de Misanthrope, je pense à Auguste de Sidna, je pense à Cyrano de Bergerac. Bon, voilà, sorte de lire. Oui. Maintenant, je dis, tiens, qu'est-ce que je n'ai pas joué, qu'est-ce que j'aimerais ? Ben, il y en a un qui me fait signe en ce moment. Et c'est pas nouveau, mais lui, il insiste. C'est Édipe.
D'accord.
Vous voyez, dans les envies, les passions, oui, c'est non seulement intact, mais...
Vous avez envie, en fait, oui, de faire d'un florilège, un peu comme Hugo a souhaité son testament, on va dire, poétique. À propos du testament poétique d'Hugo, donc l'art d'être grand-père, vous serez à Chauvigny, donc je l'ai dit tout à l'heure, le 12 novembre prochain, pardon, à 15h30. Alors, si je peux conseiller une chose à nos auditeurs, c'est de réserver dès à présent. Il reste encore quelques places, mais il faut vraiment réserver. Si je devais vous souhaiter quelque chose, alors... On a parlé de santé là, jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour les jours et les semaines à venir ?
Me souhaiter, il n'y a pas de mieux à souhaiter que la bonne santé.
La bonne santé, oui.
Parce que je suis sûr que on a besoin d'une complète énergie. Quand j'ai énergie, pas seulement musculaire, mais surtout. Mental, moral, voilà, la bonne. Et puis, c'est, j'aime le théâtre parce que je suis pas seul. On est sur le plateau. Il y a l'incarnation, ce qu'on appelle l'incarnation, comme ça. Et c'est être dans la vérité du personnage ou de l'œuvre que l'on confie et on confie au public qui est là. Et ce partage-là, pour moi, c'est irremplaçable. C'est important. Hein, en ayant définitivement écarté toute autosatisfaction. Vous voyez, il faut surtout éviter d'être content de soi.
Alors.
Ça, c'est assez nul, assez c'est encombrant.
A-t-on le droit au théâtre de dire merde, justement, par rapport aux présentations, pour souhaiter bonne chance, on va dire, aux artistes ?
C'est un mot qui... vous savez pourquoi on dit merde ?
Oui, tout à fait, oui.
Dans la tradition, vous connaissez, c'est le nombre de crottins des calèches qui amenaient au théâtre les spectateurs, hein, c'est au 19e.
Oui, et bien... Hein.
On comptait au nombre de crottins des chevaux qui déposaient les spectateurs, on dit « Oh, ça y est, il y a du monde !» C'est plein.
Voilà, et c'est un terme que vous avez connu tout au long de votre carrière, un terme que vous connaissez bien pour deux raisons. La première, bien sûr, par rapport à votre métier. La deuxième, c'est par rapport à la proximité, je crois, de l'un de vos aïeux, le général Drouot, avec Napoléon Ier et bien évidemment le célèbre Cambronne. Votre aïeul était français, je crois.
Mon grand-père Nestor Drouot, c'était sa fierté quand j'étais plus petit, comme ça. On descend du général Drouot.
Et oui.
Bon, alors le général Drouot, c'est le sage de la Grande Armée, et ce que je peux vous dire, que vérification de cette ascendance, c'est à l'aïeul direct était le frère du père d'Antoine Drouot, le frère. Donc ça veut dire que leur père à eux, c'est encore un Drouot, hein, et ils étaient tous dans la farine. Le père d'Antoine Drouot, le sage de la Grande Armée, qui est une très belle figure, était boulanger. à Nancy. Eh bien, moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils étaient meuniers en Belgique.
D'accord. Oui.
Bon, ils étaient dans Paris. Voilà, ce qu'on appelle dans Paris. Et oui, d'ailleurs, moi, je fais régulièrement mon pain, mais probablement pour les mêmes raisons. J'ai un plaisir à faire mon pain, parce que je voyais ma grand-mère à la ferme où je suis né, faisant son pain tous les 15 jours et toutes les une dizaine de miches pour la famille, etc. Oui. Oui, mais c'est une belle figure.
Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, c'est ce que je me disais par rapport à cela, par rapport à Cambronne, par rapport au mot de Cambronne. Votre aïeul qui était français, vous êtes aujourd'hui belge. Je me disais, à quel moment ça a merdé, quoi ? À quel moment êtes-vous devenu belge ?
Eh bien, je vous dis, c'est le père de mon arrière-grand-père.
Qui a quitté.
Qui a quitté. Ben, vous savez, la Lorraine n'était pas encore. Venait d'être. C'était les marches, hein. C'était pas encore le Royaume de France, hein, c'était l'époque où. Et puis, oui, Waterloo, tout ça. Quand je vois représenter à Waterloo, au musée de Waterloo, une. Là, avec le groupe, avec Napoléon, Bonaparte, et puis mon aïeul, Antoine Drouot, oui, c'est un drôle de truc. Hein. C'est un peu comme. C'est pour ça. J'y pense presque pareil, parce que le père de Victor Hugo, il était général avec il était général au moment où Antoine Drouot était général aussi de Napoléon, hein.
D'accord.
Ils étaient des généraux, ils étaient avec Napoléon.
Eh bien, écoutez, c'est formidable. Je voulais vous remercier de nous avoir accordé cette interview, vous dire merci et vous dire donc rendez-vous au 12 novembre à 15h30 au théâtre Charles Trenet de Chauvigny pour vous et nos auditeurs, bien évidemment. Juste une petite dernière chose, on trouve toujours actuellement en librairie et puis sur commande, hein, votre ancien, alors on appelle ça des mémoires, j'appelle ça moi une autobiographie, le cerisier du pirate que vous avez fait en 2015.
Oui, c'est Philippe Pini qui a recueilli une sorte de recueilli une mémoire. Très bien, hein, une sorte de bilan. Vous voyez, de bilan, je ressens le besoin, est-ce que j'aurai le temps de confier, de besoin très intime, comme ça, de, non pas de raconter, bon, les moments formidables, hein, formidables, de les évoquer, mais de réfléchir sur encore plus profondément, plus exactement sur le rôle comme ça de l'allumeur de réverbère que je suis. Voilà. Si vous voulez un titre, en voilà. Je suis un allumeur de réverbère.
Ben, joli titre, très poétique. Je vous remercie. En tout cas, moi, je viendrai vous voir à ce moment-là
au
théâtre.
Alors, oui, alors si vous n'êtes pas trop déçu, oui, mais j'aurai plaisir à vous saluer.
Je viendrai vous voir, puis je viendrai vous faire dédicacer votre autobiographie. Hein, il n'y a pas de souci. Je voulais vous remercier pour cette interview. Et puis vous souhaitez une bonne continuation au niveau du tournage avec Miu Miu et Patrick Chenet. Alors si jamais vous êtes en bon terme avec eux, pourquoi ne pas les inviter à nous rejoindre un jour sur notre antenne, hein, pourquoi pas. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour votre pièce, hein, L'art d'être grand-père, le 12 novembre à 15h30 à Chauvigny, salle Charles Trenet. Jean-Claude Bourreau, merci.
Merci infiniment, merci.
Merci et on se quitte sur un extrait de la pièce justement. Merci, à bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
J'ai désormais pour joie de rêver immobile. J'ai devant ceux que l'homme adore, excès, grand sens, devant les Jupiters de la toute-puissance, été 40 ans, fier, indompté, triomphant. Et me voilà vaincu par un petit enfant.